my bonu. Hey, no between us. I go direct, make she see, say I mean her. Some romantic arena. I wanna take her to a place where the past should be greener.
Now I got wine,
a
body fire.
Time bomb.
She my desire.
Time bomb.
Make me lose control.
Explosion.
Bring sexy back, sexy Nina.
Time bomb.
She came with a friend called Sabrina.
Time bomb.
Don't stop, sister Nina.
Time bomb.
Baby, go.
L'appel à un autre rassemblement le 23 octobre prochain dans la capitale, Nguela Nguso, Brazzaville, la voix de l'Amérique.
Et c'est dans ce contexte que le président français s'est exprimé sur la situation au Congo. Denis Sassou Nguesso peut consulter son peuple, ça fait partie de son droit. Et le peuple doit répondre, a déclaré François Hollande lors d'une conférence de presse à Paris avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Ensuite, il faut toujours veiller à rassembler, respecter et apaiser, a plaidé le président français.
En effet, Ibrahim Boubacar Keïta, qui est accompagné d'une forte délégation ministérielle, a eu un tête-à-tête avec son homologue français François Hollande. Revenons sur les points clés de cette visite avec notre confrère de Mali Actu, Séga Diarra, qui est à Paris.
Il est venu accompagné de plus d'une dizaine de ministres et des hommes
politique et homme d'affaires. Et aujourd'hui, il faut constater qu'il a un agenda très chargé donc pendant ces deux jours. Et ce matin, il a commencé par une visite donc à l'Élysée où il s'est entretenu en tête-à-tête avec le président François Hollande. Et ensuite, il s'est rendu au Sénat. Demain, le président Ibeka animera une conférence pour le développement du nord du Mali au niveau de l'OCDE. Et pour l'occasion, il sera entouré donc des différents protagonistes, notamment les différents groupes armés, les représentants des différents groupes armés du nord du Mali, pour parler du développement de cette région-là. Et à cette même occasion, la France mettra donc 300 millions d'euros pour financer le développement sous forme de prêts pour une période de 2015 à 2017. Et ce qu'il faut noter, c'est que cette annonce sera faite à l'occasion de la grande conférence pour la reconstruction et la relance du Mali au siège de l'OCDE, ce qui est un signe politique, mais aussi une affiche symbolique pour une conférence qui mettra les régions du nord du Mali au cœur du débat.
Le journaliste Séga Diarra de Mali Actu.
Présidentielle ivoirienne, l'ex-président Laurent Gbagbo dément avoir donné des consignes de vote dont le premier tour est prévu dimanche. A noter que le candidat Affine Guessan promet de tout faire pour libérer Gbagbo qui attend son jugement par la Cour pénale internationale. Plus sur les élections ivoiriennes en seconde partie d'émission.
Présidentielle au Burkina Faso, le CDP, parti de l'ex-président Blaise Compaoré, entend soutenir un candidat en dépit de l'exclusion de son challenger, c'est ce que rapporte l'AFP. Le Conseil constitutionnel avait en effet rejeté le mois dernier la candidature d'Eddy Constance Kamboigo, président du CDP. Le parti s'engage donc à soutenir le candidat qui aura le meilleur dossier pour le peuple burkinabé.
République démocratique du Congo, l'organisation citoyenne Lucha dit avoir porté plainte devant la Commission nationale des droits de l'homme pour détention illégale de Fred Bouma et Yves Makwambala, deux militants associatifs arrêtés mi-mars à Kinshasa.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le président syrien Bachar al-Assad est retourné dans son pays ce mercredi après avoir rencontré le président russe Vladimir Poutine à Moscou pour discuter du soutien militaire de la Russie à l'armée syrienne. Salwa Jafari.
C'est son premier voyage officiel depuis le début de la guerre et cette première sortie, Bachar al-Assad a voulu la dédier à son meilleur allié, Vladimir Poutine. En gage de remerciement, al-Assad a pris le risque de s'aventurer au-delà des frontières de son pays, un pays qui, rappelons-le, est toujours en proie au chaos à l'heure où la campagne de raid aérien de l'aviation russe est entrée dans sa quatrième semaine. Souriant, visiblement détendu, le président syrien a rappelé que sans Vladimir Poutine, le terrorisme se serait propagé davantage. Son hôte a lui souligné que toute action militaire en Syrie doit conduire à un processus politique.
En ce qui concerne le règlement de la situation en Syrie, nous pensons que sur la base de la dynamique positive, dans le cours de l'action militaire, le règlement à long terme peut être atteint dans le cadre d'un processus politique avec la participation de toutes les forces politiques et les différents groupes ethniques et religieux. Et en fin de compte, le dernier mot devrait, sans aucun doute, revenir au peuple syrien, a déclaré Vladimir Poutine.
Et Bachar al-Assad n'était pas le seul visiteur syrien à Moscou. L'envoyé spécial du président Vladimir Poutine pour le Moyen-Orient, Mikhail Gogdanov, a reçu mercredi, donc ce mercredi, des représentants des Kurdes syriens, malgré la mise en garde d'Ankara contre toute aide de la Russie aux combattants kurdes en Syrie. Au cours de cette rencontre, précise l'AFP, Moscou a souligné la nécessité de consolider les efforts de chaque groupe ethnique et religieux composant la société syrienne, y compris les Kurdes, pour l'éradication du terrorisme en Syrie.
Sur le terrain, une attaque de l'aviation russe a fait au moins 13 morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cette frappe a touché un hôpital de campagne dans le nord-ouest du pays, apprend-on de même source.
Et la guerre en Syrie continue et par conséquent, la crise de migrants en Europe continue aussi. Depuis quelques jours, la Slovénie porte le fardeau. Les détails avec Isha Sarai.
Ce mercredi, le président de la Commission européenne a convoqué une réunion d'urgence des chefs d'État de l'Union européenne et des Balkans pour discuter l'influx de migrants. Pour plus de coopération entre les pays affectés par la crise, Jean-Claude Juncker invite les chefs d'État de 10 pays à se réunir ce dimanche à Bruxelles pour élaborer des stratégies en vue de stopper l'hémorragie. Quelques fonctionnaires de l'Agence des réfugiés de l'ONU étaient également invités. Après la fermeture de la frontière entre l'Hongrie et la Croatie, les réfugiés qui souhaitent gagner l'Autriche, la Suède et l'Allemagne ont emprunté la route des Balkans. L'offensive de l'armée syrienne a poussé près de 35 000 personnes sur la route de l'exil. Depuis quelques jours, c'est au tour de la Slovénie de voir déferler plus de 20 000 réfugiés.
Au Yémen, les affrontements se poursuivent notamment dans la ville de Taïz entre les forces de la coalition arabe menée par les Saoudiens et les rebelles chiites soutenus par l'Iran. L'AFP fait état de 22 civils tués ce mercredi dans une attaque attribuée aux rebelles.
Et le vice-président américain Joe Biden a mis fin aux spéculations sur son avenir politique. Dans une allocution ce mercredi à la Maison-Blanche, Joe Biden a déclaré qu'il ne briguera pas l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2016, ce qui renforce davantage les chances de l'ancienne secrétaire d'État et ex-première dame Hillary Clinton. Dans tous les sondages, elle devance le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, et l'ancien gouverneur du Maryland, Martin O'Malley.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Eddy Sango.
La compagnie aérienne Ethiopian Airlines se tourne résolument vers l'Asie et la Chine en particulier, un marché plus porteur selon son PDG. Des membres d'équipage chinois seront déployés sur ces vols à destination de la Chine. D'ici là, Ethiopian Airlines ambitionne également de devenir le premier transporteur aérien africain. En plein essor, la compagnie éthiopienne a doublé de taille depuis le début de la décennie et affiche déjà la flotte la plus importante du continent avec 77 appareils contre 45 en 2010 et en comptera bientôt 120, dont 14 Airbus A350 en attente de livraison. Airtel Rwanda et Facebook offrent aux Rwandais utilisant le réseau Airtel l'accès à Internet gratuit. Les Rwandais pourront donc accéder à divers sites web à travers le réseau Airtel sans frais. L'ensemble de services gratuits couvre notamment les rubriques de la santé, l'éducation, la communication, le sport, l'emploi et l'information. Selon Facebook, ce partenariat permettra aux collectivités et aux entrepreneurs de se développer. L'Agence internationale de l'énergie prévoit la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues du secteur de l'énergie. Cependant, les pays participant à la conférence de Paris 21 doivent impérativement respecter leurs engagements dévoilés dans l'optique de la conférence. Le secteur de l'énergie nécessite aussi un investissement de 13 500 milliards de dollars d'ici 2030, soit 840 milliards par an en moyenne, prévient l'agence.
C'était la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Pour l'actualité sportive, on accueille en studio Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
On commence par la Ligue des Champions, troisième journée en Europe.
Oui, dans le groupe A, Malmö affronte le Shakhtar Donetsk au Parc des Princes, la nuit des stars avec le Paris Saint-Germain d'Ibrahimovic qui reçoit le Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Dans le groupe B, le VfL Wolfsburg joue contre le PSV Eindhoven, tandis que le CSKA Moscou sera aux prises avec les Anglais de Manchester United. Dans le groupe C, les Turcs de Galatasaray s'opposent aux Portugais du Benfica. Atlético de Madrid joue contre FC Astana. Et enfin, dans le groupe D, déplacement difficile pour le FC Séville qui affronte Manchester City. Et puis enfin, la Juventus Turin reçoit le Borussia Mönchengladbach.
Parlons maintenant du scandale de la FIFA Bagassi. Il touche de nouvelles personnalités.
Oui, chaque jour, il apporte son lot de secousses à la FIFA. La commission d'éthique a révélé que sa chambre de jugement allait se pencher sur l'icône du foot allemand, le Kaiser Frank Beckenbauer, ancien membre du comité exécutif de la FIFA, et sur l'espagnol Angel Maria Villalona, un des vice-présidents actuels de cette instance. Revenant à l'Allemagne, il est champion du monde avec la RFA comme capitaine en 1974, puis sélectionneur en 90, il était donc membre du comité exécutif de la FIFA au moment du vote de 2010 qui a attribué le mondial 2018 à la Russie et celui de 2022 au Qatar.
Merci Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Gabi Dorsil en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, Morgane, le Congo-Brazzaville.
Transparency International dénonce les réformes constitutionnelles visant à permettre au président Denis Sassou Nguesso de briquer un autre mandat en 2016. La volonté de changer la constitution est trop souvent le reflet de l'échec même du modèle de gouvernance et de la volonté de s'accrocher au pouvoir par les élites retranchées, a déclaré Chantal Ouiman, directrice pour l'Afrique de Transparency International. Au Congo, même les organisations des droits de l'homme font entendre leur voix. John Lindon s'est entretenu au téléphone avec Christian Munzeo, président de l'organisation Rencontre pour la paix et les droits de l'homme.
En tant que citoyen, on s'interroge un peu sur cette intervention, on veut dire, de l'armée en face des manifestants pacifiques. C'est véritablement une interrogation. Et puis, avec le fait que Internet a été coupé, les radios, notamment internationales, ne sont disponibles que sur le bouquet. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas de SMS. On s'interroge pourquoi est-ce que, évidemment, on ne peut pas communiquer alors que, de ce point de vue, il est en train de se passer des choses.
Y a-t-il, d'après vous, une voie de sortie de crise au vu de la détermination des deux camps, à savoir le gouvernement et l'opposition, à aller jusqu'au bout?
Dans un état de droit, on ne peut pas se permettre aujourd'hui que des personnes, le frère et tout, soient inquiétées, tuées, traquées pour certaines aujourd'hui parce qu'il y a des raisons politiques à cela. C'est pour ça que nous en appelons à l'intervention du président de la République, qui est le garant de la paix dans le pays, et qu'il constate qu'il y a un problème et il n'y a que lui qui peut sortir le pays de cette situation. Et nous appelons les partis politiques à s'asseoir, à discuter et surtout à faire en sorte que les populations soient protégées, que les populations aient la vie sauve. Parce que, évidemment, on apprend pour l'instant, c'est difficile de sortir. Il y a des personnes qui sont visées et on ne sait pas exactement comment les choses sont en train de se passer dans le théâtre des opérations. On nous signale des arrestations arbitraires, on nous signale peut-être aussi des exécutions sommaires, etc. Et donc, du coup, c'est utile de ce point de vue que le président de la République se parle.
Et comment voyez-vous l'attitude de la communauté internationale par rapport à cette crise?
Le fait d'ailleurs que les citoyens congolais aujourd'hui n'ont pas la possibilité de communiquer peut interpeller. Je veux dire, si jamais dans ces conditions, on ne souhaiterait pas que cette communauté internationale vienne faire le médecin après la mort, le décompte des morts et des blessés. Ça ne nous intéresse pas. Ce que nous voulons, c'est la paix. Et donc, cette communauté internationale, elle a des ressources, elle a des moyens pour pouvoir amener les partis qui sont aujourd'hui en train de ne pas s'accorder, de s'accorder pour garantir la paix, la sécurité des gens, des biens, parce qu'on apprend aussi qu'il y a des pillages. Et de ce point de vue, cette communauté internationale est tout sur la base des relations, sur la base des contacts qu'il y a et tout peut s'organiser pour amener évidemment les dirigeants politiques à s'asseoir et à pouvoir parler pour trouver une issue pacifique.
Joint à Brazzaville par John Lyndon, Christian Munzeo, président de la Rencontre pour la paix et les droits de l'homme.
En Côte d'Ivoire, l'enjeu de la présidentielle de dimanche 25 octobre se joue sur le taux de participation, Gabi.
Il faut dire que malgré la prolongation du délai de retrait des cartes d'électeurs par la commission électorale indépendante, les Ivoiriens ne se bousculent pas pour aller les retirer. À ce désistement s'ajoute l'appel au boycott lancé par trois pointures politiques pro-Gbagbo. Cela risque de compliquer la légitimité du prochain président pour notamment réconcilier les Ivoiriens, a fait remarquer l'analyste politique Christophe Kwame, joint à Abidjan. VOA Afrique a d'abord voulu savoir la teneur des doubles inscriptions sur le fichier électoral dénoncé par le candidat Charles Konambani.
Au calcul, déjà sur les réactions de la société civile en général, des journalistes et d'autres médias, ces doublons devraient être 0,01% de la liste globale. Tout le monde s'accorde à dire que ces doublons ne pourraient pas entacher la qualité de la liste électorale 2015.
Le FPI pro-Gbagbo, notamment M. Sangaré, continue à appeler au boycott de la présidentielle de dimanche. Quelle est la conséquence de cet appel de...
Il faut observer un phénomène précis dont personne ne parle. Déjà pour le retrait, pour 2015, des cadres d'électeurs, il n'y avait pas d'affluence du tout jusqu'à ce jour. La CEI vient de donner 3 jours supplémentaires. L'engouement pour le retrait des cadres électoraux, avant même que certains partis lancent le boycott, est-ce parce que cette année 2015, ce n'est que les cartes d'électeurs et non couplé à la carte nationale d'identité? Nous n'en savons rien. Mais ce que nous constatons, c'est que M. Sangaré Aboudraman a été rejoint dans l'appel au boycott par un des candidats qui vient de désister, c'est-à-dire Mamadou Coulibaly, qui, son slogan est simple, « Osons dire non à des élections truquées ». L'association des deux phénomènes peut entraîner un faible taux de participation. D'ailleurs, le candidat sortant, tous les RHDP aujourd'hui se rendent compte sur le tard qu'il fallait peut-être prendre des prédispositions pour amener les uns et les autres à retirer leur carte.
Mais ça va laisser le champ libre au président sortant pour briguer un autre mandat aussi facilement.
Oui, sûrement, toutes les statistiques nationales et internationales le donnent favori. Sur le terrain, l'émiettement de l'opposition appuie encore cette qualité de favori. Il a un bilan à présenter par rapport aux autres candidats, donc il est triplement favori. La Côte d'Ivoire a besoin pas d'un président légal, mais on a besoin plutôt d'un président légitime pour 2 ou 3 raisons. Première raison, il faut que ce président puisse, dans cette légitimité, réconcilier les Ivoiriens, parce que jusque-là, depuis 1999 à ce jour, le problème majeur des Ivoiriens, c'est la réconciliation. Deuxième élément de légitimité, ce serait que la croissance actuelle qui ne s'est pas encore transformée dans les assiettes des ménagères puisse continuer sur cette légitimité.
Christophe Kwame, au micro d'Éric Manirakiza.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur la présidentielle de ce dimanche en Côte d'Ivoire. Un scrutin jugé crucial dans un pays marqué par la guerre civile de 2010-2011. 7 candidats tenteront de déloger le président sortant, Alassane Ouattara, qui brigue un second mandat. Ouattara est déclaré favori, mais les jeux sont-ils faits? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Lutte contre le terrorisme au Sahel. Le gouvernement américain met à la disposition des forces nigériennes une importante quantité d'équipements. On compte notamment 2 appareils militaires équipés de systèmes de collecte, de renseignements, de surveillance et de reconnaissance. La réception a eu lieu ce matin, nous dit notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
C'est le 2e don d'aéronef de type Cessna que le gouvernement américain apporte au Niger en l'espace d'une année. En 2014, en effet déjà, Washington a offert 2 autres aéronefs aux forces armées nigériennes engagées depuis quelques années dans la lutte contre le terrorisme. Karijo Mahamadou, ministre de la Défense.
Nous avons auparavant, en 2014, reçu de la part des États-Unis d'Amérique 2 Cessna, mais ces Cessna-là étaient destinés à l'EVASAM et au transport, évacuation des blessés sur le théâtre d'opération ou transport très rapidement, j'allais dire tactique. Et puis voilà, aujourd'hui, pour tout boucler, on a 2 Cessna pour faire du renseignement, pour faire des reconnaissances, vraiment permettre aux hommes qui sont au sol de pouvoir mieux accomplir leur mission.
Les 2 nouveaux aéronefs sont plus performants que les précédents. Leurs caractéristiques ont été présentées à la cérémonie de leur réception par la première femme pilote de l'armée de l'air du Niger, formée aux États-Unis d'Amérique, le lieutenant de 28 années, Ouma Lawali.
Cet avion avec module embarqué est conçu pour les missions ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. L'avion a une masse maximale au décollage d'un peu moins de 4 tonnes. Et côté performance, une vitesse maximale de 292 km/h, limitation due à l'installation de la caméra. Le Cessna ISR a un rayon d'action d'environ 630 km et une autonomie de 4 à 6 heures selon l'altitude à laquelle est effectuée l'opération. Il est composé d'une caméra, d'une station embarquée qu'on appelle communément l'ASOC, est composé d'écrans haute définition, d'une pupitre de commande de la caméra et de la partie transmission.
Les deux aéronefs ont été accompagnés par une importante quantité d'équipements divers pour les forces armées nigériennes, particulièrement celle du bataillon interarmé de Dirkou situé à la frontière libyenne. Enis Redik, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger.
Cet équipement renforcera significativement la capacité du bataillon à pouvoir intercepter des terroristes et contrebandiers au Niger et à servir davantage dans la protection des populations nigériennes. Les forces armées nigériennes ont fait montre de courage et de détermination dans la poursuite de ces objectifs et en notre appui total.
Dans les mois à venir, les autorités nigériennes recevront toujours des États-Unis d'Amérique un avion militaire de type C-130, a laissé entendre le ministre de la Défense Kariyo Mahamadou. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Notre envoyé spécial Nicolas Pino s'est rendu à Calais dans le nord de la France dans le cadre de son reportage sur la crise migratoire en Europe. Calais est la principale ville française de liaison avec la Grande-Bretagne grâce à son port et grâce au tunnel sous la Manche. C'est aussi là qu'existe un camp de plusieurs milliers de migrants appelé la jungle. Des migrants qui tous souhaitent rejoindre l'Angleterre, dernière étape de leur voyage, nous dit Nicolas Pino.
Des taches bleues ou blanches se comptent par centaines. Bienvenue dans la jungle, nom barbare de ce bidonville où s'entassent déjà plus de 4000 personnes aux abords de Calais. Soudanais, Afghans ou Syriens, ils attendent de pouvoir gagner l'Angleterre mais sont bloqués en France dans la misère. Céline Schmitt est la porte-parole du Haut Commissariat aux réfugiés.
Les conditions de vie ici à Calais, comme vous le voyez, sont vraiment déplorables. Les personnes vivent sous des bâches en plastique et la majorité des personnes qui sont ici parce qu'elles fuient des conflits ou fuient des persécutions. Tout le monde doit être traité avec dignité, avec humanité, réfugiés ou migrants.
Qu'il semble loin le rêve anglais dans ces tentes balayées par le vent et le sable, les migrants tentent de survivre et de préparer l'hiver qui approche. Emmitouflé dans son gros manteau, ses gants et son bonnet, Badeldine Chogar est un Soudanais originaire du Darfour.
C'est très dur de vivre ici. Le temps est très mauvais avec de la pluie. Il fait très froid, il y a du vent.
Very cold, windy.
Et leur attente devrait se prolonger puisque le port de Calais a été totalement sécurisé avec des clôtures hautes de 3 mètres et des fils barbelés au-dessus. Les forces de police patrouillent en nombre dans ce secteur ainsi que sur celui d'Eurotunnel. Les policiers tentent d'empêcher les migrants de se cacher dans des camions direction l'Angleterre via le tunnel sous la Manche. Un dispositif musclé qui ne semble pas les dissuader, comme le constate impuissant l'adjoint au maire de Calais en charge de la sécurité, Philippe Mignonnet.
Des migrants sur l'autoroute, essayant, et on peut comprendre, c'est l'énergie du désespoir, ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont fait des dizaines de milliers de kilomètres, ils sont arrivés ici, à 30 km du Royaume-Uni, et n'ont qu'un seul souhait, c'est s'y rendre, par quelque moyen que ce soit.
Un centre de 1500 places doit être créé sur le site, insuffisant, alors que la population de la jungle pourrait doubler d'ici la fin de l'année. En attendant, d'autres drames sont à craindre. 16 migrants ont déjà perdu la vie depuis le début de l'année en tentant de rejoindre l'Angleterre. Depuis Calais, dans le nord de la France, Nicolas Pino, VOA Afrique.
Et c'est la fin de cette édition à la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, aux présentations Morgan Guiriec et Chérubin Gabi Dorsil.
Et on avait Micha Dubinsky à la console. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.